Chapitre 6 L'opinion de Lady Dinsmore. Deux jours plus tard, au coup de 10 heures du matin, Frank Dofton descendit de taxi devant l'hôtel de l'Evening Times. Avant d'entrer, il aspira un moment avec joie l'air léger de mars, où se percevait déjà la première approche du printemps. Le brouillard des jours derniers avait disparu. À la devanture d'un fleuriste, des lilas coupés répandaient leur suave parfum. Comme pour rattraper cette seconde perdue, il gravit 4 à 4 les escaliers. « Le patron n'est pas là ?» demanda-t-il à Jameson, le chef reporter, qui, après l'avoir vu entrer, regardait d'un air interrogateur la pendule. « Ah non, pas encore, voyons, il n'est que 10 heures. »« Oui, dit Dofton, mais... je me suis levé de si bonne heure que la matinée me paraît longue. » Il s'assit à son bureau et repoussa ses papiers pour déplier le Times. Il avait hâte de savoir si l'on avait découvert quelque chose sur la disparition de M. Farrington. Il n'avait pas revu Doris. Ne trouvant rien dans le Times, il prit l'édition du soir du journal rival de l'Evening, et à peine y eut-il jeté les yeux, qu'il poussa une exclamation d'horreur. « Seigneur, mon Dieu » cria-t-il. Jameson fit pivoter son fauteuil. « Quoi, qu'y a-t-il ? Farrington ! Farrington s'est suicidé !»« Oui, oui, nous aurons une colonne là-dessus. Très intéressant, fait divers. » Puis, tout à coup, « Vous le connaissiez ?» Frank Dofton répondit d'une voix profondément altérée. « Mais j'étais avec lui au théâtre la nuit où il a disparu. » Jameson murmura quelques mots sympathiques, mais Dofton se leva. « Oh, il me faut y aller, dit-il, je puis peut-être être utile, Doris. » Il s'arrêta, incapable de parler davantage. « Mais oui, fit Jameson, allez à son domicile. » Tu restes, s'il se peut qu'il se produise de nouveaux événements. Qui sait ? Il y a peut-être eu erreur. Vous avez lu qu'on n'a pas retrouvé le corps. » Une fois dans la rue, Dofton se hâta de prendre un taxi. Il se fit conduire d'abord au bureau de Farrington, où le principal employé lui apprit que le millionnaire avait laissé une lettre annonçant son intention d'en finir avec cette vie qui lui était à charge. « Mais il n'avait aucune raison. »« Monsieur, lui répondit l'employé, je ne sais si je dois tout vous dire, mais puisque vous êtes un ami de la famille, je puis en tout cas vous annoncer que de très graves choses ont été découvertes ici même, ce matin. »« Vous saviez, et tout le monde avec vous croyait savoir, que M. Farrington était un puissant multimillionnaire. »« Eh bien, c'était exact jusqu'à aujourd'hui. » Mais on vient de découvrir, par l'examen de ses livres particuliers, qu'il avait spéculé et perdu dernièrement non seulement toute sa fortune, mais aussi sans doute celle de sa nièce, dont il est tuteur. Hier soir, dans un accès de désespoir, il a mis fin à ses jours. Quant à la nature de ses spéculations malheureuses, nul ne les connaît encore. Dofton regarda son interlocuteur avec la plus grande profonde stupéfaction. Mais est-ce bien de Farrington qui lui parlait ? De ce même Farrington qui, il y avait une semaine à peine, lui annonçait froidement qu'il avait accru d'un million en un mois la dot de sa pupille, qui 2 jours auparavant avait fait allusion à une magnifique affaire financière qu'il préparait. Et maintenant, cet homme avait tout perdu et gisait sans doute au fond de la Tamise. « Mais c'est épouvantable » murmura-t-il. « Oh, pour moi, je ne puis croire que M. Farrington se soit laissé aller à commettre cet acte de désespoir. Il n'était pas homme à faire cela. »« Je puis ajouter, » dit encore l'employé, « que M.T.B. Smith, de la police secrète, est chargé d'une enquête. » Le public ne le sait pas encore. Mais puisque vous connaissiez beaucoup M. Farrington et que vous êtes journaliste, Si vous apprenez quelque chose de nouveau, mais je ne manquerai pas de vous en informer. Smith est très fort d'ailleurs. En tout cas, voici mon adresse. Il reprit son taxi et donna vivement l'adresse de l'hôtel Farrington à Berkeley Square. Doris ne voulait voir personne. Downton fut reçu par Lady Dinsmore, dont l'habituelle sérénité avait fait place à une agitation douloureuse. Il lui serra la main en silence. Vous êtes très gentil de venir nous voir si vite, mon cher Frank, lui dit-elle. Vous savez tout. Oui, comment Doris prend-elle cela? Elle se laissa tomber dans un fauteuil et secoua la tête. Mal, très mal. Pas une larme, mais une figure de marbre. Elle a refusé de rien croire jusqu'à ce qu'elle ait vu et reconnu l'écriture de son oncle. Alors elle s'est évanouie. Lady Dinsmore prit son mouchoir et s'essuya les yeux. Ensuite, reprit-elle, Doris a envoyé chercher le comte Poltavo. Dalton ouvrit de grands yeux. Cet homme est pourquoi? Lady Dinsmore secoua la tête. Je ne sais pas. Doris ne m'a rien dit. Elle s'imagine probablement que le comte sait quelque chose. Elle croit que son oncle a été victime de quelque machination. Frank Dalton s'inclina. Oh, j'ai la même impression, dit-il. Allons donc, fit Lady Dinsmore. Vous ne connaissez pas Gregory? Cependant, permettez, il a été assassiné ou il s'est tué? Oh, je suis bien sûr qu'il n'a jamais eu la moindre velléité de commettre un acte aussi désintéressé, dit calmement la dame. Alors, pourquoi affirmer avec tant de force qu'il est mort? Et que voulez-vous dire? riposta Frank Dalton stupéfait, et se demandant si son interlocutrice perdait aussi la tête. Oh, simplement que Farrington n'est pas plus mort que vous et moi. Quelle preuve a-t-on? Une lettre écrite de sa main où il annonce qu'il a décidé d'en finir avec la vie. Alors cela, si l'on connaît l'homme, c'est au contraire une présomption qu'il n'en avait pas l'intention, car Gregory ne faisait jamais part de ses vraies intentions. Non, croyez-moi, il n'est pas mort. Pour des raisons personnelles, il a fait semblant, il se cache. Je voudrais bien vous croire, fit le jeune homme tout pensif, mais cela me semble tellement extraordinaire, fou. La porte du salon s'ouvrit et Dalton releva vivement les yeux, comme s'il s'attendait presque à voir entrer le disparu lui-même. C'était Doris. Elle demeura un moment immobile, indécise, les yeux fixes. En robe blanche, très simple, avec ses beaux cheveux noirs en bandeau, elle semblait une petite fille étonnée. Mais les pâles rayons d'un soleil à peine printanier qui venait des hautes fenêtres montrait l'empreinte des récents événements sur son visage. De légères ombres violettes sous les yeux et une pâleur effrayante. Le jeune homme s'empressa, ne songeant plus à rien qu'à la douleur de celle qu'il aimait plus que la vie. Il lui serra chaleureusement les mains. Elle lui jeta un long regard. Ses lèvres tremblèrent et, en étouffant un sanglot, elle se laissa tomber dans ses bras. Non, mais je vous en prie, ne pleurez pas, dit-il en la soutenant. Il lui caressa lentement, tendrement le front et les cheveux. Le parfum de la jeune fille l'ensorcela. Son cœur battait frénétiquement. Il plongea les regards dans ses beaux yeux éplorés. Ah, vous, dit-elle. Vous êtes bon pour moi. La passion qu'elle lut dans ses yeux la fit légèrement rougir. Elle se dégagea doucement et s'assit. Lady Dinsmore vint prendre place à côté d'elle sur le divan et indiqua à Frank un siège tout proche. Maintenant, dit-elle, nous allons tenir conseil tous trois. Et d'abord, laissez-moi exprimer à nouveau ma forte conviction. Gregory n'est pas mort. Quelque chose me dit qu'il est sain et sauf. Doris tourna vers le jeune homme. Avez-vous des nouvelles plus récentes, meilleures? Il secoua la tête. Non, malheureusement, dit-il. Rien de nouveau ne s'est produit, que je sache. La préfecture est saisie et c'est Tibby Smith qui est chargé de l'enquête. Elle frissonna et se couvrit les yeux. Oh, lui, il a dit qu'il venait arrêter mon oncle. Quelle abominable affaire! Je ne peux l'oublier. Et puis il s'est jeté à l'eau, c'est sûr. Je le vois dans l'eau noire, c'est affreux. Lady Dinsmore, désespérée de la voir dans un tel état, ne savait que faire pour la calmer lorsqu'un domestique frappa. Il tendit une lettre à Lady Dinsmore qui lut la suscription et la passa à Doris. Ce doit être de Paul Tavo, murmura la vieille dame. Doris prit vivement la lettre, l'ouvrit, la lut d'un coup d'œil. Un petit cri de joie lui échappa. Son visage se colora. Elle relut et toute sa physionomie reprit une expression d'espoir assuré. Elle replia le billet, le glissa dans son corsage et sans un mot sortit du salon. Dalton la suivit des yeux, tout pâle de colère et de jalousie. Lady Dinsmore se leva. Excusez-moi un moment, dit-elle, et elle suivit sa nièce. Le jeune homme, tout frémissant, se mit à arpenter le salon de long en large, attendant de moment en moment leur retour. Quelle avait été sa félicité quelques instants auparavant, quand il avait tenu Doris entre ses bras, une Doris accablée de douleur, mais confiante en lui. Et maintenant, dans quel abîme de perplexité et de doute le jetait l'étrange conduite de la jeune fille? Que pouvait bien contenir ce billet qui avait eu tant d'empire sur elle? Pourquoi l'avait-elle caché comme on cache une lettre d'amour? Tout en faisant les 100 pas, il heurta une chaise et jura entre ses dents. Le domestique, qui était entré sans être aperçu, toussa légèrement pour avertir le jeune homme de sa présence. Madame vous prie de l'excuser, dit-il, et fait dire qu'elle écrira. La porte venait de se refermer sur lui lorsqu'il aperçut le comte Poltavo. Il poussa un grognement sauvage et voulut l'éviter, mais Poltavo l'avait aperçu et vint à lui. Triste affaire, lui dit-il. Vous avez vu ces dames? Comment Miss Gray supporte-t-elle cette épreuve? Dalton le regarda dans le blanc des yeux. Votre lettre l'a consolée, dit-il avec mépris. Ma lettre, mais je ne lui ai pas écrit. Je viens moi-même, comme vous voyez. Dalton témoigna qu'une dédaigneuse indifférence à ses paroles, et après un petit salut, s'éloigna. Au coin de la rue, perdu qu'il était dans ses tristes pensées, il se heurta à un gentleman souriant, au teint hâlé, qui s'excusa en souriant et ajouta: Oh, Monsieur Dalton, n'est-ce pas? Je suis Tibby Smith, chef de police. Enchanté, dit Frank. Avez-vous découvert quelque chose de nouveau? Oui, on a repêché de la Tamise un corps revêtu des habits de Monsieur Farrington. Alors, c'est vrai, il s'est bien suicidé. Eh bien, monsieur, répondit le policier, l'hypothèse ne serait vraisemblablement que si un homme pouvait se couper la tête avant de se jeter à l'eau. Car je dois vous dire que le corps retrouvé est privé de sa tête. Personnellement, n'ayant encore jamais vu un suicidé de cette sorte, je prends la liberté de réserver mon opinion. D'un train qui venait d'arriver en gare de Waterloo, descendit un homme de haute taille, d'allure jeune et fort. Néanmoins, vu de plus près, il devait avoir un certain âge ou avoir couru de fortes aventures, car ses tempes étaient grisonnantes. Des rides profondes apparaissaient au coin de sa bouche. Il avait le teint jaunâtre des gens qui ont longtemps vécu dans les pays chauds. À la sortie, il hésita à faire appeler un taxi ou à attendre d'en trouver un sur son chemin. Tandis qu'il réfléchissait, une auto vint s'arrêter devant lui. Taxi, monsieur? Oui, dit le voyageur. Conduisez-moi à l'hôtel Métropole. Il ouvrit la portière et avait déjà un pied dans la voiture lorsqu'il se sentit légèrement tiré en arrière. Il se retourna et rencontra les regards perçants de deux yeux gris et rieurs. Je crois, docteur Galworthy, dit le nouveau venu, que vous feriez mieux de prendre une autre voiture. Mais me direz-vous, monsieur, commença le docteur, mais il s'arrêta à la vue d'un agent qui s'installait sans façon à côté du chauffeur. Oh, je regrette ce contretemps, dit alors Timmy Smith, qui avait empêché le docteur de monter en voiture. Mais je vous expliquerai la cause de mon intervention. Pour le moment, qu'il vous suffise de savoir que vous avez manqué de peu d'être enlevé en plein Londres par cet audacieux chauffeur que mes hommes vont conduire en lieu sûr. Le chef de police conduisit le docteur abasourdi à son bureau, et peu à peu, morceau par morceau, il en tira l'histoire d'un certain George Doughton mort dans ses bras, des documents qu'il s'était chargé de rapporter à Lady Constance d'Aix, et de la façon dont cette dame avait appris la mort de son fiancé. Oh, je crois que je comprends maintenant. Merci beaucoup, dit M. Smith, quand le docteur eut dit tout ce qu'il savait. Oh, je crois que je comprends maintenant.